Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 24 mars.
Selon le JICS, la Corée du Nord tire 2 missiles de croisière présumés depuis Incheon. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne de nouveau la Corée du Nord. Sohuk échange avec les Émirats arabes unis sur la coopération en matière de défense et d'armement. Enfin, 7 Sud-Coréens sur 10 souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus selon un sondage.
On part tout de suite en Corée du Nord. Pyongyang a tiré dimanche matin 2 missiles de croisière présumés depuis les environs d'Incheon, près de la mer Jaune. Et l'analyse est en cours pour connaître leur nature exacte. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'état-major interarmé sud-coréen JCS. Un haut responsable de l'administration de Joe Biden a confirmé cette information et annoncé que l'armée américaine maintenait toujours sa posture de préparation. Les autorités militaires des deux alliés estime pourtant que ce lancement ne constitue pas une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'il ne s'agit pas de missiles balistiques. Interrogé à ce sujet par les journalistes, le président des États-Unis a qualifié cette situation d'habituelle selon le Pentagone. Joe Biden a ainsi constaté que les choses n'avaient pas beaucoup changé. Un haut responsable de son équipe a lui aussi parlé de tests de routine. Quoi qu'il en soit, des experts de la question de Corée estime que Pyongyang aurait effectué cette action militaire de faible intensité seulement pour sonder les réactions de la Corée du Sud et des USA.
Direction maintenant la Suisse. Comme on s'y attendait, et pour la 19e année consécutive, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont adopté hier une nouvelle résolution condamnant les violations des droits humains en Corée du Nord. Le texte, approuvé par consensus sans vote, dénonce vivement les violations graves, systématiques et généralisées de ces droits commises depuis longtemps dans le nord de la péninsule. Il appelle en même temps le régime de Kim Jong-un à coopérer avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations Unies pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La résolution fait également état de l'inquiétude à l'égard de la situation des prisonniers de guerre sud-coréens, toujours détenus au nord du 38e parallèle et de leurs descendants. Cette année encore, comme en 2020 et en 2019, la Corée du Sud n'a pas rejoint les pays qui l'ont parrainé pour se contenter d'approuver son adoption. Quant aux États-Unis qui ont réintégré en février le Conseil onusien, ils figuraient cette fois sur la liste des nations l'ayant proposé. L'administration Trump avait claqué la porte de l'organe en 2018. Comme à l'accoutumée, le représentant nord-coréen auprès de l'ONU à Genève, Han Tae-song, a réagi fortement à la nouvelle résolution, martelant que son pays la refusait.
Pour refermer cette page Corée du Nord, le leader nord-coréen a adressé des messages verbaux aux dirigeants de Cuba, du Vietnam et du Laos en vue de tisser la solidarité entre les pays socialistes. C'est ce que rapporte ce matin l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Dans ce message, Kim Jong-un a fait part de la position de son pays concernant la défense militaire et ses relations avec Séoul et Washington, concrétisées lors du 8e congrès du Parti des travailleurs qui s'est tenu en janvier dernier. Faire parvenir un message aux pays autres que la Chine pour annoncer le résultat de son congrès est une démarche politique sans précédent du royaume ermite. Elle ferait partie de sa nouvelle stratégie pour le renforcement des liens avec les États communistes. Face à l'augmentation de la pression de l'administration Biden, Pyongyang semble chercher à sortir de l'isolement diplomatique en tendant la main à ses alliés.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Dans l'actualité internationale, arrivé hier soir à Séoul depuis Pékin pour une visite de 2 jours, une première en 8 ans, le ministre russe des Affaires étrangères a entamé aujourd'hui son programme officiel. Dans la matinée, Sergueï Lavrov a rencontré des responsables sud-coréens de la politique étrangère et sécuritaire. Et dans l'après-midi, il a prononcé un discours lors de la cérémonie d'inauguration de l'année des échanges croisés entre les deux pays. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de l'établissement de leur relations diplomatiques en 1990. Demain, le chef de la diplomatie russe sera reçu par son homologue sud-coréen Jong Eun-young. Au cœur de leur entretien, les relations Séoul-Moscou, la situation dans la péninsule coréenne ou encore les dossiers internationaux. L'éventuel voyage de Vladimir Poutine au pays de Matin Clair pourrait aussi s'inviter dans leurs discussions. À l'issue de leurs échanges, les deux hommes publieront un communiqué de presse commun.
En voyage aux Émirats arabes unis, le ministre sud-coréen de la Défense a préparé hier une réunion de haut niveau entre les deux pays. L'occasion pour Saouk d'échanger avec les principaux dirigeants de l'armée émiratie, parmi eux son homologue Mohamed Ahmed Al-Bouardi et le chef d'état-major des armées Hamad Mohamed Thani Al-Lumaiti. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans les deux pays et la coopération bilatérale en matière de défense et d'armement. Le ministère sud-coréen de la Défense estime que ce déplacement de son patron a permis de renforcer la confiance entre les autorités de défense des deux nations. Il s'attend en même temps à ce que sa visite contribue de manière substantielle au développement de la collaboration entre le pays du Matin Clair et son premier partenaire de coopération du Moyen-Orient.
Crise sanitaire. Le bilan quotidien des contaminations au Covid-19 a de nouveau dépassé 400 en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, 411 cas ont été nouvellement recensés, dont 17 importés. Le nombre de Sud-Coréens ayant reçu une première dose de vaccin a pour sa part franchi le seuil des 700 000. À une semaine avant le début de la vaccination pour les individus âgés de 75 ans et plus, 500 000 doses du sérum de Pfizer permettant d'inoculer 250 000 personnes destinées à cette tranche d'âge sont arrivées ce matin à l'aéroport d'Incheon. Elles seront acheminées directement vers 22 centres de vaccination dispersés sur tout le territoire sans passer par les centres logistiques. La Corée du Sud a commandé auprès du géant pharmaceutique américain une quantité de vaccins pour 13 millions de personnes via un contrat d'approvisionnement direct. Une nouvelle livraison de 500 000 doses est attendue avant la fin du mois et une autre pour 3 millions de personnes entre avril et juin. Le gouvernement prévoit de mettre en place 254 nouveaux centres de vaccination d'ici juillet prochain, dont 162 ouvriront leurs portes en avril. Parmi les 3,6 millions de citoyens âgés de 75 ans et plus, il identifie en ce moment ceux qui souhaiteraient se faire vacciner.
La vaccination anti-Covid prend donc de l'ampleur avec plus de 700 000 personnes ayant reçu une première dose. Dans ce contexte, un récent sondage nous apprend que les Sud-Coréens y sont plutôt enclins. Une enquête qui a été réalisée par le ministère de la Santé et celui de la Culture. Concrètement, 68% des répondants qui n'ont pas encore reçu leur première dose ont déclaré souhaiter se faire vacciner. Plus de 9 personnes interrogées sur 10 ont affirmé avoir bien respecté les mesures barrières, même après leur injection. S'agissant des raisons pour lesquelles ils hésitent à se faire inoculer, ils sont 86% à avoir parlé des éventuels effets secondaires, 67% doutent de l'efficacité des vaccins et 36% évoquent le fait qu'ils ne peuvent pas choisir la marque de leur sérum. Le sondage a été mené les 17 et 18 mars auprès d'un échantillon de 1000 adultes à travers le pays.
Et on enchaîne avec la politique intérieure. À l'Assemblée nationale, les partis politiques ont repris aujourd'hui leur concertation visant à voter le projet de nouvel additif au budget à hauteur de 15 000 milliards de won, l'équivalent de 11,2 milliards d'euros. Ce projet a pour objectif d'accorder le quatrième aide d'urgence aux petits commerçants et aux individus qui sont lourdement touchés par les restrictions sanitaires liées au Covid-19. Le Minju, la majorité présidentielle, a martelé qu'il fallait absolument l'adopter ce mercredi, puisque le temps presse. Son patron par intérim Kim Tae-nyon a reproché à l'opposition conservatrice de chercher à couper drastiquement les crédits pour la création d'emplois, une enveloppe selon lui indispensable pour la classe ouvrière vulnérable. Le parti du pouvoir du peuple ne l'entend pas de cette oreille. La principale force de l'opposition n'a pas mâché ses mots. Selon elle, cette coupe du budget en question est bien nécessaire. Les deux camps s'étaient pourtant convenus de voter le texte dans la journée.
On On termine avec l'économie. Le gouverneur de la Banque de Corée a estimé que le taux de croissance économique de la Corée du Sud s'établirait cette année au-dessus de 3%, le chiffre avancé en début d'année. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui dans un document sur les enjeux d'actualité. Selon Lee Ju-yeol, les États-Unis ont confirmé leur plan massif de relance économique et ont pris de l'avance sur la campagne de vaccination anti-Covid. En profitant de cette atmosphère favorable, l'économie sud-coréenne verra donc les exportations et les investissements dans les biens d'équipement s'accroître. Toutefois, la reprise économique dépendra fortement de la situation épidémique et de la distribution des vaccins, l'évolution du marché des semi-conducteurs et la guerre commerciale sino-américaine constituent également des éléments auxquels il faut rester attentif.
C'est la fin de ce journal présenté par Yoon Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.